Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on se retrouve pour une nouvelle émission. On a quelque chose à dire. Aujourd'hui, on va vous parler de l'éducation populaire. Alors, en plateau avec moi pour animer le débat, Boris. Tu dis bonjour, Boris.
Bonjour Boris.
Et Boris, il est un peu endormi là ce soir, ça va être difficile. Jean-Jacques.
Bonjour, bonjour, moi je suis pas endormi, vous m'entendez bien?
On l'entend super bien, Jean-Jacques, là il est à la pêche, il est à fond. Et un invité de marque, Jean-Claude Godard, qui est délégué départemental des CMEA des Pyrénées-Orientales et directeur de l'école de la Deuxième Chance à Perpignan. Et donc il va nous apporter son éclairage sur l'éducation populaire.
Bonjour.
Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la tradition. Alors, comme il fait chaud, là on a un sujet tout trouvé. Que va nous développer Jean-Jacques, la burqa.
Voilà, c'est un sujet vraiment d'actualité. Alors, pas parce qu'il fait chaud, pas uniquement parce qu'il fait chaud, en tout cas, c'est parce que vous l'avez peut-être entendu, c'est le maire de Vénissieux, André Gérin.
Je vais jamais à Vénissieux.
C'est dommage parce que c'est
con, très... c'est une belle ville stalinienne.
Ouais, c'était d'ailleurs, je crois que le maire, enfin bon, on va pas parler de lui, mais
André Gérin. Il a une légère tendance à couler des bateaux, ouais.
Lui, en tout cas, ne porte pas de burqa et il nous a raconté, pas personnellement, hein, je vous rassure de suite, je ne connais pas bien André Gérin, mais il a raconté tout dernièrement dans les médias nationaux qu'il n'avait pas pu marier un couple parce qu'il ne voyait pas le visage de la future mariée qui était derrière une burqa et que ça l'a dérangé et qu'à partir de là, il a essayé de lancer une action politique au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il a eu, je crois, en tout cas ce matin, il avait 57 députés de différentes opinions politiques qui avaient signé avec lui un futur projet de loi pour dire la burqa, on n'est pas d'accord que ça existe aujourd'hui dans notre société. Et alors je voulais vous interroger, vous trois là, Séverine, Jean-Claude, Boris, sur qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce maire-là, de cette pétition-là? Imaginons, rêvons, Boris serait député. Serait député et alors est-ce que tu t'associerais avec monsieur André Gérin?
Bah, en fait ça dépend, pour le mariage effectivement c'est un problème d'identification de la personne ou si c'est pour récupérer un gamin à l'école et qu'on sait pas si c'est vraiment la maman qui est dessous la burqa ou pas, ça pose un problème, outre le problème que pose la burqa par rapport au symbole de l'oppression des femmes. Maintenant après dans la rue que des gens portent de la burqa, je vois pas en quoi on devrait interdire ça. Ça, c'est l'affaire de chacun. Malheureusement, s'il y a des gens qui ont envie de porter la burqa, c'est malheureux, mais comment leur interdire? Maintenant, pour le mariage, effectivement, ça pose problème.
Bah, c'est sûr que bon, la burqa pour le mariage, pourquoi pas? Si elle est blanche avec des petites perles, finalement, ça peut être charmant. Moi, en tant que femme, je suis un peu dérangée par la burqa parce que j'ai quand même l'impression que ce n'est pas tant un choix vestimentaire qu'effectivement une volonté d'oppression. Après, comment on va pouvoir légiférer ce que les gens portent dans la rue et jusqu'où ça va s'arrêter? C'est-à-dire qui va décider ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on va repartir sur le débat sur le voile, sur le hijab, sur tout ça?
Et sur le quoi? C'est quoi le...
Le hijab, c'est le voile qui couvre
tout. C'est comme le voile, mais en arabe.
Ouais, parce que je suis branchée, je parle arabe.
Bravo. Ah.
Mais voilà, je ne sais pas comment on peut légiférer sur ce que les gens portent dans la rue. Ça me paraît déjà compliqué. Ça me fait penser dans un tout autre style à ce que le maire de la Grande Motte avait fait comme arrêté qui nous ressort chaque année, où il dit qu'il est interdit de se balader pour les hommes torse nu.
D'ailleurs, Boris, rhabille-toi, s'il te plaît, nous sommes pas à la Grande Motte.
Mais moi, c'est le pantalon que j'ai pas, donc ça va.
Plus sérieusement, la burqa représente quand même quelque chose d'oppressant pour la femme, comme tu disais Jean-Jacques, et je ne vois pas, on peut peut-être pas légiférer sur la tenue vestimentaire, mais là en tous les cas, l'homme légifère d'une manière non officielle sur la tenue de sa femme.
Ah, est-ce qu'il y a une burqa pour les hommes? Est-ce que dans les textes, on impose une façon de s'habiller pour les hommes?
Mais je crois que dans les textes, on n'impose ni le voile, ni la burqa, on n'impose pas grand-chose. Après, c'est la vision qu'on a, c'est un reliquat du patriarcat qui vient de bien avant Mahomet et bien avant les chrétiens. Au début de l'ère chrétienne, on avait aussi des voiles pour les femmes. Les juifs, les orthodoxes voilent leurs femmes aussi. C'est quelque chose qui est dans tous les monothéismes, dès qu'on a une vision rétrograde et patriarcale de la chose, quoi.
La question, c'est peut-être de savoir pourquoi ces femmes portent la burqa. Est-ce que c'est toujours aussi compliqué? Est-ce que c'est on peut parler de choix? Est-ce que c'est une emprise du mari? Est-ce que c'est une emprise culturelle? Ça paraît difficile, mais je crois que c'est surtout compliqué quand le politique décide, comme à chaque fois, que c'est noir, que c'est blanc, et qu'on va légiférer d'une manière complètement radicale à partir d'un fait divers. Alors, on revient sur le sujet. On va parler donc aujourd'hui d'éducation populaire avec Jean-Claude Godard qui est avec nous sur le plateau. Alors déjà, peut-être d'abord pour tout le monde, l'éducation populaire, c'est quoi exactement ?
Bah, l'éducation populaire, c'est une vieille histoire entre la démocratie et l'homme. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de démocratie, tant qu'il n'y avait pas de choix, tant que le peuple ne devait pas choisir quelque chose, l'éducation populaire n'avait pas le droit de citer, n'avait même pas le droit d'exister. L'éducation populaire, elle a bien été inventée, alors il y a très longtemps, hein, puisque ça a été inventé au moment de la Révolution française, pour que les hommes, les femmes puissent avoir suffisamment d'informations et suffisamment de savoir de manière à pouvoir faire des choix et de dire voilà, je vais voter ou je vais influer dans telle direction ou telle autre direction. Donc l'éducation populaire, c'est avant tout pouvoir à tous les moments de la vie, de sa vie, de pouvoir accéder à des savoirs, à des informations et de pouvoir s'organiser et choisir des modes de société ou des modes de vie.
Donc il y a une perception politique derrière ça, parce que qu'est-ce qui différencie en fait l'éducation populaire de l'éducation en termes d'enseignement comme on l'a dans nos sociétés ?
Eh ben, l'enseignement en France, il est obligatoire jusqu'à 16 ans, point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à se former ou à s'informer ou à être éduqué après 16 ans. Il n'y a rien d'obligatoire par rapport à ça. L'éducation populaire propose tout au long de la vie, de la naissance à la mort, propose la possibilité à des personnes de pouvoir continuer à se former, à s'instruire et à pouvoir débattre entre les personnes et pouvoir confronter des avis. Ce qui n'est pas de l'éducation formelle, c'est-à-dire de l'enseignement, de la transmission des savoirs choisis par un ministère.
On avait prévu de vous faire écouter un son sur la naissance, l'émergence de l'éducation populaire, notamment juste après, à l'après-guerre, et vous êtes déjà en train de dévoiler le sujet, alors je vous propose d'écouter ce son immédiatement, et comme ça on va pouvoir débattre entre nous à propos de ce que nous raconte Franck Lepage. Alors Franck Lepage, pour ceux qui connaissent Wakadi, vous commencez à connaître Franck Lepage, on est assez fan, il faut dire.
C'est Jean-Jacques qui est fan.
Et Boris.
Ouais, moi j'adore aussi, j'ai tous ses disques.
Hein. Oui, parce que Boris, il copie toujours Jean-Jacques.
Mais c'est normal, c'est le plus beau de l'équipe.
Alors, au début, il croyait que c'était Serge Lama, donc c'est pour ça qu'il était un peu perdu, mais non, il a j'adore Franck Lepage. Donc Franck Lepage, on est quand même...
Pas la page, la page c'est le livre.
Ouais, la page ça n'a rien à voir.
Corinne Lepage, c'est encore autre chose.
Ça c'est le Cap 21, c'est autre chose, c'est à droite toute.
Oui, alors donc c'est Franck, oui voilà, Franck Lepage. Pourquoi on en parle ? Parce qu'on est au cœur du sujet, il fait partie de la moitié Scope, il est complètement au cœur...
Alors c'est quoi une Scope ?
Alors c'est des coopératives, comme une entreprise mais en mode coopérative, où tout le monde a le même salaire, où on essaye de mettre en place, je crois que c'est une voix par personne qui travaille et non pas une voix par action comme dans une entreprise classique. Voilà la grosse différence. Ça, c'est une scope. Et pourquoi il fait une scope ? Il fait une scope pour faire émerger tout un tas de travaux autour de l'éducation populaire. Et il a fait plusieurs textes de théâtre, mais notamment un qui nous a beaucoup plu, qui s'appelle « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu ». Et c'est un rapport direct avec l'émergence de cette idée folle de l'éducation populaire.
Vas-y, lance-nous le petit morceau, on va écouter.
Avec ce qui est en train de se passer, on est en 42, avec Auschwitz, avec une Shoah, hein, avec 20 millions de morts à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec le fascisme partout, ils savent désormais que ça n'est pas un problème de culture, ça n'est pas un problème d'instruction. On peut être parfaitement instruit, extrêmement cultivé, et ne pas préférer la démocratie au fascisme. Il n'y a pas de contradiction. Il y avait dans les camps de concentration, parmi les gardiens, des mélomanes qui jouaient Mendelssohn sur un violoncelle et qui d'ailleurs ont accepté de ne plus jouer Mendelssohn puisqu'il était juif. Et donc il n'y a pas de contradiction entre l'art et la politique. Vous pouvez parfaitement être un type très cultivé et puis trouver que le fascisme c'est pas mal et que de tuer des millions de gens, ben, ça peut le faire. Et donc ils savent que ça n'est pas un problème d'instruction. Ils savent que c'est un problème d'éducation politique. Ah. Mais on ne peut pas faire d'éducation politique avec des enfants. Il faut attendre qu'ils soient devenus adultes. Condorcet l'avait dit. Condorcet, vous savez, il y avait deux plans dans son rapport. Il y avait un plan d'instruction des enfants et un plan d'éducation politique des adultes. Parce que Condorcet avait dit, mes enfants, une république, ça ne tombe pas du ciel. La démocratie, ça ne s'improvise pas. C'est une bagarre constante. Dès qu'on lâche, ça recule. Et donc, il faut faire de l'éducation politique des jeunes adultes, une éducation permanente à la question démocratique. Et donc, ça, on avait complètement refermé ça. Et Condorcet disait, si vous ne faites que l'instruction des enfants, vous allez simplement reproduire des inégalités qui seront désormais basées sur les savoirs. Bon. Alors ils mettent en place en 1944 un truc hallucinant. Au sein de l'éducation nationale, mesdames, messieurs, à côté de la direction du primaire, la direction du secondaire, la direction du supérieur, la direction des arts et lettres, on crée une nouvelle direction qui est confiée à mademoiselle Christiane Faure et qu'on appelle la direction de l'éducation populaire et des mouvements de jeunesse. Alors attention, mesdames, messieurs, quand on parle de la jeunesse en 1944, on ne parle pas d'un adolescent d'origine immigrée, périurbain, avec des lacets défaits, d'accord ? On n'a pas fait venir leurs parents, encore. On n'a pas construit les HLM, d'accord ? Non, quand on parle d'un jeune, on parle d'un type qui a 21 ans. Ça veut dire qu'un jeune, c'est ça. Et 21 ans, un costume, une cravate, il va rebâtir la France. Et donc, on va confier au cadre de ces gens-là, au cadre de jeunesse, et non plus aux enseignants, la tâche d'inventer quelque chose qu'on ne sait pas faire, qui est de l'éducation critique à la question démocratique. Un ministère qui va travailler à la question démocratique en permanence. Pas seulement, mais par terre. Et donc c'est Christiane Faure qui est chargée de mettre ça en place, et elle va recruter des gens de la culture populaire, des gens du cinéma, des gens de la radio, M. Pierre Schaeffer qui va créer Radio France plus tard, des gens du théâtre. On est en 44. On vient d'ouvrir les portes d'Auschwitz. Mesdames et messieurs, il faut une Shoah pour qu'on accepte cette idée toute bête qu'il faut faire de l'éducation politique, que c'est une responsabilité d'État.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors voilà, nous venons d'écouter Franck Lepage. Je crois avoir m'être souvenu de ce que je voulais dire tout à l'heure, et c'était spécialement pour Jean-Claude, c'était que c'était les CMEA, donc, dont il est responsable régional aujourd'hui, qui avaient édité et publié ce texte à l'origine. Donc il y a quand même un lien direct, évidemment, entre, on va y venir, qu'est-ce que c'est que les CMEA et qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire. Mais par rapport à ce que tu disais, Séverine, tout à l'heure, je trouvais que c'était intéressant de l'écouter immédiatement. Il fait bien la distinction, comme le faisait Condorcet, comme l'a expliqué tout à l'heure Jean-Claude Godard, entre l'instruction pour les enfants et l'éducation permanente, y compris pour les adultes. Sinon, il le dit bien, la démocratie recule. Sinon, on peut aller droit dans le mur, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir l'urgence et la nécessité de l'éducation populaire. Je trouve qu'on l'entend bien dans ce texte-là.
Mais surtout que j'ai l'impression qu'on a pratiquement reculé, parce que ce ministère qui est créé en 44, je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui. Et il dit quelque chose, moi, que j'aimerais que Jean-Claude nous explique. L'éducation permanente à la question démocratique. Moi, ça m'a parlé, ce terme. Comment on fait de l'éducation permanente à la question démocratique ? Parce que ça me paraît fondamental. Et finalement, je ne sais plus si on arrive vraiment à le faire vivre aujourd'hui.
Alors, en reprenant ce que disait Monsieur Lepage là sur ce thème, il parle bien d'éducation permanente et d'éducation politique. L'éducation politique, elle est à prendre pas dans le sens de programme politique tel qu'il est défendu par des partisans, par les hommes politiques actuellement, parce que ils font leur boulot, ils font de la propagande, ils expliquent leur programme. L'éducation politique qui parlait dans l'éducation populaire, c'est bien de l'éducation de ce qui se passe dans la société, comment la société s'organise ou peut s'organiser, comment on pense chacun pouvoir organiser, améliorer la société, que ça soit sa petite société, donc ça veut dire sa famille, son cercle d'amis, mais son association, son quartier, et puis après, pourquoi pas sa ville, etc. Mais l'éducation politique qui parle, c'est bien dans le sens organisation de la société, de qu'elle soit familiale ou plus importante. Voilà. Après, le ministère de l'éducation populaire existe toujours. Alors, on n'entend pas parler parce que ça fait pas fun, hein, parler. Mais la partie éducation populaire existe toujours à l'intérieur de les différents ministères ou secrétariats d'État de jeunesse et sport. Jeunesse et sport, c'est le ministère qui gère aussi les mouvements d'éducation populaire. Il y a toujours un agrément qu'on demande, qu'on peut demander. On est une petite association, on peut demander son agrément éducation populaire, c'est-à-dire une association ouverte à tous qui va permettre à un certain nombre de personnes de pouvoir se former à la démocratie, même dans un club de pétanque, même dans un club de foot ou alors un dispositif de réflexion, un cercle philosophique. Et on peut demander son agrément éducation populaire si c'est une association qui n'est pas sectaire et qui s'ouvre à tous dans l'envie d'éduquer et de pouvoir regrouper un certain nombre de personnes.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un glissement sémantique? Parce que là, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, l'éducation populaire fait partie du ministère jeunesse et sport et pas du ministère de l'éducation. Donc, c'est dans un autre ministère. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage avec ce qui est donné dans le texte, c'est-à-dire une idée d'apporter à tous une vision critique de la démocratie, une possibilité d'y participer en tant que citoyen?
Oui, enfin... En 1944, le ministère de l'éducation n'existait pas. On était dans un ministère de l'instruction, l'instruction publique. Donc, il fallait savoir quel savoir de base, quel savoir faire avait besoin notre jeunesse à cette époque. Et donc, vers quel type de métier, que demandaient les patrons. Et donc, ils s'organisaient sur la transmission des savoirs. L'éducation populaire, c'est justement pas ça. C'est pas uniquement centré sur la jeunesse. Alors, c'est beaucoup sur la jeunesse, puisque beaucoup d'éducation, mouvements d'éducation populaire sont des mouvements de jeunesse, parce qu'on va s'occuper de jeunes, ou alors c'est des jeunes qui se regroupent pour s'occuper de leurs petits frères ou de leur père, et de leur père PAI.
D'accord,
on va
dire jeune.
De leur semblable. Et donc vouloir propager une idée, une volonté de faire ensemble et toutes ces choses-là.
Mais c'est peut-être plus que la volonté de faire ensemble ou la volonté de s'organiser, parce que quand Condorcet en parle, ou quand en 37, donc au moment à peu près du Front Populaire, ou en 44, les gens en parlent, c'est quand même déjà à chaque fois c'est un mouvement ou révolutionnaire ou un mouvement qui vient de la gauche avec une volonté de socialisation de la société. Il y a quand même l'idée, non pas que de s'organiser, mais d'avoir un esprit critique, de développer l'esprit critique et que les gens puissent penser par eux-mêmes et soient à même de savoir un peu, de ne pas suivre bêtement le troupeau comme le fascisme, comme c'est le fond de commerce du fascisme, du nazisme ou des choses comme ça. Donc c'est quand même plus que quand on est dans un club de pétanque, qu'on arrive à vivre ensemble, tout ça, machin. C'est bon, peut-être dans un club de pétanque, qu'on apprend la libre pensée de la boule de pétanque, comment rouler, avoir des listes, des choses comme ça. Moi, j'adore la pétanque, je suis un grand fan de la pétanque.
Il n'aime pas la pétanque, il perd à chaque fois.
Mais c'est surtout l'esprit critique, non, qui est...
Oui, mais dans un club de pétanque, il y a aussi un président, un trésorier, il y a des décisions à prendre, il y a une assemblée générale, il faut voter, one man, one vote. C'est aussi ça, l'éducation populaire. Après, effectivement, les grands mouvements d'éducation populaire ont fait d'autres propositions qui sont, pour beaucoup, on est rentrer dans des dispositifs de formation où alors ça va de pouvoir faire de la formation pour des jeunes qui vont s'occuper d'enfants, pour des jeunes qui vont...
formation BAFA par exemple.
Par exemple, oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des jeunes qui vont vouloir s'organiser pour être bénévoles dans d'autres associations, des jeunes qui vont vouloir se former pour partir à l'étranger et faire des actions humanitaires, des jeunes qui vont vouloir s'engager dans l'unité des peuples en Europe. Il y a aussi plein de choses. C'est pas uniquement dans des formations soit volontaires, soit professionnelles. Il y a aussi la volonté de vouloir faire des choses pour les autres.
Mais pour en revenir peut-être aux formations, tu es délégué départemental des CMEA. Est-ce que tu peux peut-être d'abord nous expliquer un peu ce que c'est que les CMEA et ce qu'ils fabriquent ? J'ai pas trouvé d'autres mots là sur l'instant. Fabrique, ça m'allait bien.
Fabrique, c'est bien, ouais.
Fabrique, c'est bien.
Ça fait travailleur un peu.
Ça fait travailleur, ça fait c'est mon côté. Alors, qu'est-ce que les CMEA fabriquent ? Dis-nous tout.
Alors, les CMEA, c'est un mouvement d'éducation populaire, donc vous l'avez bien compris, qui va proposer...
C'est pas
trompé, c'est pas mal. C'est
parce que la dernière fois... Côté, on a été trompé,
voilà, et on ne fabrique pas du tout cendrier. On va fabriquer...
C'est dommage parce qu'il en manque là, tu vois, s'il y avait un petit cendrier, ça serait quand même pas mal.
En même temps, on n'a pas de club, donc ça va.
Ouais.
On va fabriquer, nous, des citoyens. On va fabriquer des citoyens et...
Ah, ça, on en a, c'est bon.
Bah, pas beaucoup.
Finalement, cendrier, ça aurait été plus pratique.
Et on va fabriquer justement des citoyens qu'on ne peut pas écraser. Voilà. Donc, des citoyens qui vont tout au long de leur vie pouvoir se former et pouvoir réfléchir sur leurs conditions et ce qu'ils vont faire de leur propre métier. De leur propre métier. Alors c'est vrai que les CME sont un mouvement aussi d'éducation, un mouvement d'éducation nouvelle, donc je développerai peut-être tout à l'heure, mais où on est principalement intéressé par tous les métiers ou toutes les actions éducatives. Les CMEA regroupent des éducateurs, regroupent des animateurs, regroupent des enseignants, regroupent des travailleurs sociaux, regroupent plein de secteurs qui s'occupent des autres et où on va proposer des formations. Alors ça va de des formations, comme parlait Jean-Jacques tout à l'heure, du formation BAFA ou BAFD, donc des jeunes qui vont vouloir pendant leurs études ou pendant un petit moment de leur vie vouloir encadrer des centres de vacances, des centres de loisirs, s'occuper d'enfants, jusqu'aux animateurs professionnels qui vont faire ça toute leur vie, qui vont diriger des MJC, des secteurs jeunesse dans les municipalités, vouloir être éducateur spécialisé ou moniteur éducateur dans différents secteurs sociaux, handicapés, etc., etc.
D'accord. Alors moi, j'ai entendu éducation nouvelle. Donc, je sais que tu veux développer plus tard, mais moi, ça m'intrigue, éducation nouvelle. Je ne suis pas fan de l'ancienne, donc je veux bien savoir c'est quoi la nouvelle.
Eh bien...
C'est vieux, en fait, l'éducation nouvelle.
C'est vieux, mais c'est toujours récent. Parce que, justement, l'éducation nouvelle, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence. On va séparer un peu l'éducation traditionnelle. Je suis enseignant, je sais, tu es enseigné, tu ne sais pas, donc tu m'écoutes et tu apprends ce que je sais, ce que je veux bien te dire. L'éducation nouvelle, c'est le contraire. C'est qu'est-ce que tu sais et comment je peux faire moi pour améliorer tes savoirs. Et donc, on va se servir de l'environnement, de tout l'environnement, de ce qui existe au niveau de la nature, l'environnement physique. On va se servir du groupe, donc l'environnement social. On va se servir de l'imaginaire, donc tout ce qui est de l'environnement imaginaire, de tout ce qu'on peut se construire, de manière à ce que chaque personne va pouvoir progresser ou aider les autres à progresser.
Ce qu'on peut appeler les pédagogies freinées ou Montessori, des choses comme ça, est-ce que c'est l'éducation nouvelle ou...
On est dans les mêmes mouvements, on est dans les mêmes tendances, on est des personnes qui réfléchissons ensemble et régulièrement, on se regroupe dans des colloques, des dispositifs de réflexion, ou alors des personnes de nos associations, parce qu'il n'y a pas que les CMEA, mais de notre association, sont aussi à l'intérieur de ces associations type l'ICEM, GFEN ou autre.
Un paquet de sigles.
Moi, j'ai l'impression, en fait, ce qui me frappe, c'est le côté participatif de cette version de l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté, j'entends bien ce que tu dis, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent, qui apportent un savoir un peu prêt à penser et que les gens apprendraient, mais au contraire, de faire participer les gens qui soient, alors j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu usité, mais acteurs du système de formation et d'éducation et qui puissent apporter eux-mêmes des savoirs, des savoir-faire. C'est ça qu'il y a derrière ?
On ne peut pas apprendre si on n'est pas acteur soi-même de ça. Propre éducation ou sa propre formation. Ça ne sert à rien de continuer. On le sait, on le voit bien en ce moment. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont en train de passer leur bac, qui vont apprendre, ingurgiter un certain nombre de savoirs, qui, s'ils ne l'utilisent pas, et de toute manière, s'ils l'apprennent par cœur, comme c'est fait dans beaucoup d'endroits, pas partout dans l'éducation nationale, je ne veux pas généraliser, mais comme dans beaucoup d'endroits, ou comme est fait l'examen du baccalauréat, ils vont le régurgiter, ils vont avoir leur bac, et puis dans 3 semaines, 1 mois, 3 ans, en fonction de s'ils l'utilisent ou pas, l'auront complètement oublié. Demander à un certain nombre de personnes de 40 ans qui ont eu leur bac avec mention très bien, est-ce qu'ils se souviennent de leur examen, des contenus en mathématiques de leur cours de terminale ou de leur cours de physique.
Mais c'est vrai que même Darkos a du mal avec la règle 2-3, c'est vrai.
Par exemple.
Il y a des soucis avec ça. Mais quelle est la différence ? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un côté démagogique de dire le prof, l'élève, tout le monde égaux, tout ça ? Parce que le prof, quand même, objectivement, a plus de savoir que l'élève.
Bien sûr, il a plus de savoir. Et il est hors de question de dénigrer ce que sait un adulte par rapport à un enfant ou ce que sait quelqu'un qui a eu une formation dans un domaine. Mais c'est la manière de le retransmettre. C'est plutôt de quelle façon on va demander à la personne de progresser. La différence entre l'enseignant qui veut transmettre du savoir sur un cours théorique et l'éducateur... avec un beau E, permettre à la personne de progresser. Quel outil on va lui donner de manière à arriver à l'endroit où, où la personne qui cherche cette formation, qui a envie de se former, va devoir arriver. Comment il va pouvoir faire ce parcours.
Il n'y a pas le côté amphi avec le mec qui fait sa messe et puis les autres qui sont là juste pour
oui,
prendre. Quoi.
Sans être dans le dogme, peut-être qu'il peut y avoir besoin un jour de dire, voilà, tout le monde a besoin de la même information au même moment, que vous allez réutiliser d'une autre manière derrière. Donc voilà, on fait un amphi et puis l'amphi est fait parce qu'on gagne du temps. Ce n'est qu'un outil, ça ne peut pas être une manière d'enseigner en permanence et une transmission des savoirs permanente.
Non, j'ai juste une remarque, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes sur le champ de l'éducation politique et populaire dont on parlait tout à l'heure, et là, à travers ces exemples, vous êtes plutôt dans un champ d'une pédagogie d'instruction différente de celle qu'on connaît. Vous n'allez peut-être pas l'appeler l'instruction, mais et il me semble, pour finir ma question, que vous êtes exactement aussi à l'interstice de ces deux domaines-là quand vous formez les délégués de classe. Je crois que les CMA ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire que ça se passe dans le champ scolaire. Et pourtant, on travaille sur la question de l'éducation populaire et de la démocratie.
De la démocratie, de la compréhension. On ne peut pas être délégué de classe. Alors, c'est vrai qu'on intervient sur les collèges et les lycées pour pouvoir former des délégués de classe. De moins en moins, il faut quand même le savoir, de moins en moins. C'est vrai qu'on arrive souvent comme des cheveux dans la... Pardon ?
Pourquoi de moins en moins ?
Eh ben, on est souvent comme des cheveux dans la soupe. On arrive, on propose aux jeunes de pouvoir connaître l'institution, de pouvoir savoir comment on peut la contrer, et puis de connaître comment on peut utiliser ce qui existe à l'intérieur du lycée ou du collège pour pouvoir contester ou dire les choses différemment. Donc, c'est vrai que, bon... ça n'a pas obligatoirement très bonne presse dans l'ensemble des collèges. Donc, c'est compliqué. Après, de moins en moins aussi, parce que ça a un coût. Ça veut dire qu'on mobilise des personnes qui se déplacent, qui viennent enseigner, qui viennent former des professeurs principaux, qui viennent... qui
font vivre le truc, quoi.
Voilà, et qui font vivre le truc aussi. Et que les crédits sont de moins en moins utilisés pour ce genre de choses. Voilà. Après, l'intérêt, c'est à l'intérieur d'une institution scolaire qui a un dispositif démocratique, de fait, dans la loi. C'est la loi où il y a des délégués de classe qui doivent être élus, qui doivent être représentés aussi au conseil d'administration des établissements, qui doivent avoir le droit de pouvoir se réunir de manière à faire des propositions. C'est aussi gênant pour certains chefs d'établissement.
D'accord, bon, on va peut-être faire une petite pause musicale et on va continuer ensuite à détailler toutes les actions des CMA parce que je crois qu'il y en a encore tout un tas de choses qu'on pourra préciser avec toi Jean-Claude et on se retrouve de suite après cette musique.
No meu bairro sem pretensão, tem horrível reputação. Todos gritam quando eu me calo e se escandalizam quando falo. Eu que não pensava que era pecado evitar a trilha onde anda o gado. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos me chamam de indecente, tirando os mudos naturalmente. Quando enterram o presidente, fico na minha cama quente. Que me importa se o rei morreu, vivo o palhaço e viva eu. E eu que não pensava que era pecado ser indiferente ao engravatado. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos apontam pro indecente, fora os manetas, naturalmente. Se um garoto rouba um melão e o rico grita, pega ladrão, não resisto e passo rasteira e olho o doutor lambendo poeira. E eu que não pensava que era pecado ajudar o menor abandonado. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos perseguem o presente, fora os penetas, naturalmente. Não preciso um mago Merlin pra saber qual será meu fim. No meu bairro a noite se escuta, lincha, lincha o filho da mãe. E eu que não pensava que era indecência seguir o caminho da consciência. Mas a gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Essa gente detesta quem não segue as ordens de ninguém. Todos verão meu funeral, tirando os cegos, é natural.
Alors dans Wakadi, on a un petit jeu sémantique maintenant, c'est notre nouvelle tradition. Donc depuis tout à l'heure, on parle des séméa. Donc séméa, c'est un sigle, ça veut dire quoi exactement ?
Alors le sigle détaillé veut dire centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active.
Centre d'entraînement, alors entraînement aux méthodes d'éducation active, c'est un peu barbare comme sigle.
Oui, il faut dire que les CMEA sont une association qui s'est créée à la suite du Front Populaire.
Mais le Front Populaire n'était pas barbare, hein, quand on précise quand même pour nos auditeurs.
Ça, tu crois qu'ils vont confondre.
Le sigle est barbare, mais pas le Front
Populaire. Pas le Front Populaire, allez, alors, on va préciser, parce que si jamais la mère de Boris entend.
On a gardé le vocabulaire qui était utilisé à cette époque.
Alors, on a parlé tout à l'heure du côté formation des CMEA. Il y a d'autres activités. Est-ce que tu peux développer un peu le champ des activités des CMEA ? Je sais, très large et très diversifié.
Les CMEA sont présents à peu près dans tous les domaines qui concernent l'éducation, tous les domaines depuis la formation des enseignants, l'éducation formelle, la formation continue. On est très peu présent dans les IEFM, la loi nous le permet pas. Mais sur la formation continue, on propose dans le cadre des formations continues des enseignants, on propose un certain nombre de stages, de formations complémentaires. Les CMEA sont présents aussi sur l'ensemble des formations de l'animation, que ce soit des animations volontaires, donc pour des jeunes qui veulent passer, s'occuper d'enfants dans centre de loisirs, en centre de vacances, mais aussi des animateurs professionnels. Les CMEA sont présents aussi au niveau de tout le domaine du médico-social, donc la formation des éducateurs, des moniteurs éducateurs. Les CMEA sont présents aussi sur beaucoup de fronts, la formation des parents, un travail sur la parentalité, aussi sur l'international, dans le développement des pays en voie de développement, les rapports Nord-Sud, etc.
Et le rapport à la culture, je crois que les CMEA sont en lien avec Jean Villard. On est d'accord, pas maintenant, je parle de...
Il est mort, ouais.
Merci. Non, mais je veux dire, sur l'aventure d'Avignon, l'aventure du printemps de Bourges à un moment... Je crois qu'ils ont eu une véritable implication dans ces domaines-là.
On est toujours présents. Là, on est vraiment dans le domaine de nos actions de terrain et en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation populaire. Comment faire en sorte que n'importe qui puisse aller au Festival d'Avignon et pouvoir découvrir le théâtre, pas uniquement parce qu'on a un savoir ou on a une culture qui nous permet d'accéder à l'ensemble des pièces, mais aussi de pouvoir comprendre comment ça se passe à l'intérieur d'une pièce, de rencontrer les acteurs, rencontrer les metteurs en scène, rencontrer aussi les auteurs, et de pouvoir faire un parcours à l'intérieur des festivals d'Avignon. Là, c'est dans notre domaine, on est vraiment dans l'éducation directe.
Physiquement, vous accueillez des festivaliers dans des lieux d'hébergement, vous leur proposez des activités au jour le jour, c'est comme ça que ça fonctionne ?
Fais gaffe, ils planifient ses prochaines vacances.
On leur propose des activités au jour le jour, mais on leur propose aussi de découvrir le théâtre autrement qu'en allant voir une pièce, s'asseoir et repartir et de gober ce qui s'est passé.
Il n'y a pas d'autre activité du CMEA au niveau de l'éducation, au niveau des personnes qui ont eu des difficultés scolaires ou autres
Alors, on est dans régionalement, là, principalement régionalement, sur le Languedoc-Roussillon, on est présent sur trois écoles de l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, qui est un dispositif mis en place par le conseil régional, qui permet à des jeunes qui ont décroché complètement du système scolaire de pouvoir réintégrer une insertion et sociale et professionnelle. C'est bien les deux qui nous intéressent.
Ils ont quel âge ?
La plupart entre 18 et 25 ans, quelques-uns sont un peu plus jeunes, mais c'est sur des programmes, des programmes où des jeunes de 18-25 ans en ont marre de galérer dans la rue ou n'arrivent pas à s'en sortir seuls ou ne savent pas quoi faire de leur vie et vont passer un moment avec nous de 8 mois, 9 mois, 10 mois, voire plus pour certains, et de pouvoir découvrir les métiers, choisir leur voie et de se mettre à niveau. De pouvoir pouvoir progresser et de rentrer dans des formations ou de rentrer directement à l'emploi.
Ça consiste en quoi exactement? C'est des cours du soir? C'est des...
Pas du tout, on les a toute la journée avec nous sur un dispositif de formation professionnelle, donc dans un cadre 35 heures par semaine, où ils vont participer à leur progression sur des savoirs de base, hein, maths, français, etc., mais aussi sur l'ensemble de la vie culturelle, l'ensemble de la vie culturelle du secteur où ils habitent.
Donc c'est un peu plus large que les formations NPE alors?
Oui, on n'est pas sur des formations très pointues du type il faut que j'aille tel niveau reconnu par l'Europe de manière à pouvoir intégrer tel type de métier, tel type de compétences. On est bien sur des découvertes et de pouvoir les amener à construire leur propre projet professionnel.
Et les encadrants alors qui organisent tout ça, ils viennent de quel monde? Comment vous les recrutez, vous, CMA?
De tous les domaines. Moi, je suis enseignant. J'ai une formation enseignant. J'ai quitté l'enseignement depuis peu. J'y retournerai sûrement. J'ai la chance de pouvoir être encore... avoir la possibilité d'être détaché de l'éducation nationale et donc de pouvoir me mettre en disponibilité, on va dire, pour faire plus simple. Et d'autres viennent sont plutôt assistantes sociales, d'autres sont plutôt formateurs, on vient du monde de l'entreprise et ont quitté l'entreprise et mettent leurs compétences à disposition de ces jeunes, comme notre formatrice bureautique informatique, par exemple, était une comptable très pointu en informatique. D'autres viennent de l'animation et vont plutôt travailler sur le domaine construction de la vie sociale et culturelle avec ces jeunes.
Alors, tu disais que tu avais la chance d'être en disponibilité de l'éducation nationale. J'aimerais bien qu'on aborde une question parce que les oreilles de Wakadi traînent en ce moment et on entend dire, j'espère que c'est pas vrai, qu'il y a quand même quelques difficultés pour les associations d'éducation populaire comme les CMEA de garder leurs détachés, qu'il y a une volonté gouvernementale de faire revenir les gens de l'éducation nationale vers leur cœur de métier, c'est ce qu'ils disent, et donc tout doucement de voir toutes ces associations-là être privées de ce type de personnel. Est-ce que c'est réel ce genre de rumeur?
Depuis 50 ans, on fait un travail que l'éducation nationale n'est pas capable de faire. Parce que dans le mode d'organisation, dans le développement des savoir-faire, la formation des formateurs, etc., l'éducation nationale n'est pas organisée et l'aspect militant que nous avons dans nos associations ne peut pas être géré par l'éducation nationale. Donc, en contrepartie, puisqu'on faisait un gros travail que l'éducation nationale n'était pas capable de faire, l'éducation dans les différents ministères, hein, que ce soit le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de la justice, mettait à disposition des fonctionnaires qui allaient faire le travail, des fonctionnaires volontaires, qui allaient faire le travail qu'eux n'étaient pas capables de faire. Et ça existe de moins en moins.
C'est-à-dire que on revient sur les affectations de poste. Il y a une volonté de ne plus donner ce moyen à l'éducation populaire, de recentrer sur l'éducation nationale, c'est ça?
Non, pas du tout de le recentrer, de le supprimer. De supprimer et de passer tout au privé. On est dans un dispositif actuellement de système concurrentiel. La droite actuellement est logique avec sa politique et libéralise tout. Pour pouvoir ouvrir l'école de la deuxième chance de Perpignan, j'ai dû répondre à un appel d'offres.
C'est la gauche, hein, c'est le conseil régional.
Oui, mais j'ai quand même dû répondre en fonction des lois européennes, en fonction de ce qui est décidé sur la Cour des comptes, etc. Nous a proposé un appel d'offres où il y a des concurrents qui n'ont rien à voir avec l'éducation et la laïcité, par exemple. Hein. Où on rentre en concurrence et le prix devient quelque chose d'important, pas obligatoirement la compétence du mouvement ou de la recherche qui est mise en place dans nos associations.
Vous pâtissez aussi alors de la suppression des fonctionnaires, puisque du coup il y a moins de possibilités de détachement, et de la marchandisation de ce domaine d'activité, quoi.
Oui, même si la culture et l'éducation ne devraient pas rentrer dans les dispositifs concurrentiels.
Non, la culture et la savoir n'est pas une marchandise, effectivement.
Oui, sauf que on se rend compte que de plus en plus ça fonctionne comme ça. Et le risque à terme, c'est effectivement de voir se développer non pas ceux qui apportent un réel plus et une réelle compétence et une approche différente, mais ceux qui sont les moins chers. Parce que finalement, la recherche du coût le plus bas, c'est ce qu'on voit un petit peu dans tous les domaines. Et le principal critère de choix, au dépit de la compétence et d'un apport, et surtout aussi de l'esprit militant qui anime les CMA.
Oui, ceux qui sont les moins chers, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de recherche, ceux qui n'investissent pas dans la formation de leurs formateurs, de la formation des personnes qui ne travaillent pas avec les personnes extérieures qui leur permettent d'avoir les ressources ou les savoir-faire et la réflexion pour pouvoir faire correctement notre métier.
Donc après le plombier polonais, l'éducateur bulgare alors.
Oui, avec un danger en plus, c'est que le secteur marchand s'est mis dans le dispositif de l'éducation. Vous avez tous entendu parler des boîtes de rattrapage scolaire, qui sont des SARL, qui doivent faire des bénéfices, auquel cas un certain nombre de personnes qui ont investi de l'argent à l'intérieur se partagent des bénéfices sur le dos de nos enfants qui sont en échec scolaire.
Pas de petits profits.
Bon, comme on vous sent assez militant au CMEA, et notamment toi Jean-Claude, j'imagine que vous avez des stratégies de résistance, vous réfléchissez à vos modes de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer. Je voudrais juste faire un lien avec les autres associations d'éducation populaire, on n'en a pas parlé, ça vaut quand même le coup de les citer. Je ne les connais pas toutes, mais je crois qu'il y a les Franca, il y a la FOL, tu vas pouvoir peut-être en citer d'autres. Est-ce que vous avez des méthodes globales de résistance par rapport à ce qui est en train de se passer sur la perte de revenus, sur les détachements qui ne se font plus? Est-ce qu'il se passe quelque chose autour d'un réseau militant sur cette question-là?
Oui, reconnu de complémentaire de l'école publique, on est 8 associations. Ces 8 associations, on se connaît très bien, on travaille souvent ensemble, on se complète dans nos actions et on se rencontre régulièrement pour réfléchir et faire des propositions, et pas obligatoirement que des contestations, mais faire des propositions aux différents ministères de manière à ce que nos actions puissent continuer à durer et à améliorer nos dispositifs de formation des jeunes ou d'organisation. Tu parlais des Franca. Sans les Franca, beaucoup de centres de loisirs ne peuvent plus fonctionner. Les parents ne savent pas, mais énormément de centres de loisirs sont organisés avec des militants, des personnes qui vont réfléchir, qui vont passer de leur temps bénévole pour pouvoir faire en sorte que vos enfants soient bien accueillis. Tu parlais des fédérations des œuvres laïques. Actuellement, une association de quartier qui a besoin de s'organiser et de pouvoir vivre sans la Fédération des œuvres laïques, même une petite association de jeunes ne peut pas vivre parce que il leur faut un moment où quelqu'un intervient sur comment se rend les comptes quand ils ont un peu de sous d'une subvention, comment se gère des adhérents, comment une assemblée générale se fait, etc. On est bien dans le domaine de l'éducation populaire où s'il n'y a pas ce qu'on appelle les têtes de réseau, nous, mais bon, s'il n'y a pas des associations qui fédèrent, cet apprentissage ne peut plus se faire.
Alors je crois que pour compléter, alors peut-être je me trompe, mais pour compléter encore un tout petit peu plus les activités des CMA, il y a cette petite partie infime, mais qui pour nous est importante, c'est celle de l'édition. On a écouté tout à l'heure Franck Lepage, je vous propose d'écouter un autre texte qui a été aussi publié par les CMA, et c'est Fernandolini. Alors Fernandolini, je pense que je le présenterai moins bien que toi, mais c'est un éducateur, c'est ça Jean-Claude?
Oui, un éducateur qui a beaucoup contesté les institutions existantes, notamment les maisons de redressement, qui existaient dans les années 45-50.
Alors on écoute quelques-uns des aphorismes tirés de son livre qui s'appelle « Graines de crapule ».
Méfie-toi, celui qui se montre, c'est qu'il a envie de se faire voir. Donc, de se cacher. Quand tu auras passé 30 ans de ta vie à mettre au point de subtiles méthodes psychopédiatriques, médico-pédagogiques, psychalano-pédotechniques, à la veille de la retraite, tu prendras une bonne charge de dynamite et tu iras discrètement faire sauter quelques pâtés de maison dans un quartier de taudis. Et en une seconde, tu auras fait plus de travail qu'en 30 ans. Après l'incontinence verbale, La punition est l'arme la plus chère aux redresseurs d'enfants. Et le plus triste, c'est que les enfants prennent goût à ces vices de grandes personnes. Le plus grand mal que tu puisses leur faire, c'est de promettre et de ne pas tenir. D'ailleurs, tu le paieras cher, et ce sera justice. Si tu joues aux policiers, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés.
Alors voilà quelques-unes de ces phrases tirées de ce livre qui fait quand même beaucoup parler de lui dans le domaine de l'éducation, dans la formation des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs. Là, j'ai envie de t'interroger un peu personnellement, Jean-Claude. La phrase notamment qui consiste à dire que en une seconde, en faisant péter une tour, on fait plus qu'en 30 ans de réflexion pédagogique, ou je ne sais plus comment il le tourne. Comment tu peux réagir, toi, par rapport à ce genre de propos ?
Oui, ce qu'il veut dire, c'est que l'environnement dans lequel vit le jeune, ou vit l'adulte même, n'est pas innocent. Et que on ne peut pas uniquement instruire, uniquement mettre en place des méthodes psychologiques pour que les personnes puissent aller mieux, si on ne joue pas aussi sur l'ensemble de son environnement ou de ses environnements. Et là, notamment, l'environnement de vie a une importance. Fernand Deligny, comme nous, était un grand défenseur des acquis par rapport à l'inné. C'est pas, on ne naît pas mauvais, c'est bien tout notre environnement qui fait que un certain nombre de gamins dérivent ou d'adultes dérivent.
Ouais, j'ai eu peur, d'un coup j'ai cru que Ben Laden était un grand éducateur avec le passage que tu nous as fait passer là.
Mais du coup, comment on fait concrètement pour agir sur l'environnement ? Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'environnement a des répercussions sur comment un gamin va évoluer, comment il va se représenter le monde qui l'entoure et la société dans laquelle il vit. Mais comment on peut, en tant qu'association d'éducation populaire, agir sur cet environnement et surtout le faire bouger ?
En prenant quelques responsabilités, après chacun son métier. Nous, l'environnement sur lequel on peut jouer, c'est l'environnement social. Le groupe a une importance. Comment les relations de groupe s'installent ? Comment est-ce que dans un groupe de jeunes, chacun a le droit à la parole ? Ou alors on nomme un chef et c'est uniquement le chef qui doit avoir la parole et puis décider. Donc c'est des choses comme ça. Après, effectivement, il y a des architectes ou des urbanistes qui feront sûrement mieux leur travail que nous par rapport à l'environnement physique. Mais quand on décide à un moment donné, quand on est éducateur, de dire voilà, pour construire un gamin ou pour construire une personne, il y a besoin qu'il change d'environnement, il y a besoin qu'il puisse aller en vacances, qu'il puisse aller à la campagne, qu'il puisse aller au bord de la mer, qu'il puisse aller à la montagne, qu'il puisse aller visiter d'autres endroits qu'un ghetto dans lequel il vit, on agit aussi sur l'environnement et que de faire découvrir aux autres un autre environnement, que l'environnement et que cette personne même puisse aussi changer son environnement, soit en le respectant mieux, mais aussi soit en choisissant de voter différemment.
Mais avec le problème de l'environnement, il y a le problème de quand tu vas en vacances avec les gens de ton quartier, en fait, finalement, tu restes, même si tu es sur la plage, tu restes avec ton quartier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport aux choix politiques, notamment sur les cartes scolaires, sur les choses comme ça, qui font qu'il n'y a pas de mixité sociale, et du coup, plus que faire tomber des tours, est-ce que des petite décision un peu politique, un peu peut-être simpliste de voir ça, c'est peut-être simpliste de voir ça, mais qu'on pourrait peut-être faire déjà de la mixité sociale en essayant de l'imposer au moins politiquement avec la carte scolaire ou des choses comme ça, non ?
Oui, mais c'est une grosse modification de l'environnement dans lequel doivent vivre les personnes. En ce moment, il est plus intéressant d'entasser des personnes par ethnie, par couche sociale, par catégorie socio-professionnelle, ça fait bien de dire ça, et de les parquer dans des endroits où surtout ils ne vont pas déranger l'autre population d'à côté. On est peu quand même dans des environnements diversifiés, dans des habitats diversifiés. Cette politique, elle a été très peu défendue, et maintenant, même si des politiques et de droite et de gauche disent qu'il faut absolument modifier ça, il y a eu 40 et 40 années de difficultés à loger des personnes qui sortaient des taudis ou des bidonvilles pour les ranger dans des cages à lapins, et ben maintenant il faut bien arriver à modifier ce dispositif qui avait sa valeur à l'époque, mais qui maintenant on s'aperçoit qui ne fonctionne plus.
Alors, je vais peut-être un peu juste changer de sujet. On a beaucoup parlé de l'éducation, du volet éducatif, peut-être plus sur le volet populaire. Alors, quand j'ai entendu l'éducation populaire, moi, il y a plein de choses qui me sont venues en tête, et notamment l'université populaire, l'université du citoyen. Alors, je sais que ce n'est pas tout à fait la même démarche, et qu'en même temps, il y a des choses qui peuvent vous rassembler. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, vraiment un tout petit peu. L'éducation, l'université populaire était un des principes mis en place fin du 19e siècle, de manière à ce que les militants laïcs, les hussards de la République, etc., puissent le soir donner des cours aux paysans illettrés, voire analphabètes, pour leur donner les outils de choisir, de voter, de pouvoir s'instruire et progresser dans leur métier, etc. Le terme d'université populaire ces dernières années n'a pas été du tout ce genre de volonté. La volonté, c'était de pouvoir mettre en place des conférences et que quelques chercheurs puissent... Alors, je ne vais pas cracher non plus sur tout, faut pas exagérer. Il y a quand même un certain nombre de conférenciers ou d'universités qui ont mis en place des cycles qui permettaient à des personnes des quartiers aux alentours des universités de pouvoir participer et venir avoir un moment intéressant. Bon, maintenant, hormis le coup de pub qu'il y a eu il y a quelques années, on est maintenant dans complètement autre chose, dans des conférences qui s'organisent pour des personnes bien pensantes et qui viennent écouter le savoir ou le savoir sans pouvoir répondre et questionner.
On n'est pas dans l'éducation moderne, nouvelle.
Non, je pense pas. Enfin, après, je
globalement,
enfin, en tous les cas, dans l'esprit où c'est mis en place et où c'est médiatisé actuellement. Maintenant, il y a sûrement des conférenciers qui font des petites conférences, qui essayent de parler avec le public, de répondre aux questions du public, de donner des exemples, de faire des expériences avec le public ou demander au public de faire des expériences eux-mêmes. Il y a peut-être plein de choses intelligentes et sympas qui se mettent en place auxquelles je suis pas au courant.
Alors moi, j'ai une question un petit peu provocatrice, mais ça n'existait pas.
Vas-y, j'adore ça.
C'est un provocateur,
on adore.
L'éducation populaire, on est d'accord, ils n'existaient pas avant la Révolution française, et pourtant, il y a eu quelque chose de populaire qui s'est peut-être créé à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 50 ans qu'il y a de l'éducation populaire, et on a l'impression qu'on ne fait pas avancer la démocratie aujourd'hui, voire pire. Voire, on avait l'impression qu'on est en train de perdre tout un tas de valeurs. Alors, comment ça se fait qu'il y a un constat, j'allais dire, d'échec. En tout cas, est-ce que ça marche ?
Tu veux dire qu'il pisse dans un violon, c'est
ouais,
ça ?
Voilà. En gros, sa question, c'est mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ?
Non, la question, c'est est-ce que vous investissez le bon champ ? Est-ce que, par exemple, il n'y aurait pas besoin d'aller faire des mouvements d'éducation populaire à la télévision, par exemple ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que toutes les fédérations d'éducation populaire se disent mais voilà, on se rend compte que le média de masse qui est la télévision est tellement important aujourd'hui qu'il faut qu'on l'investisse et qu'on essaie de proposer une télé alternative parce que c'est là où on va toucher quelque chose de populaire.
Éducation populaire story. Votez par SMS.
Oui. je ne suis pas un spécialiste des médias, donc je vais avoir du mal. Maintenant, il y a des gens dans l'éducation populaire qui se battent sur le côté, qui se battent sur les médias, de proposer des émissions, de... Bon, alors maintenant, ils sont de tellement petites audiences sûrement diffusées à des moments très...
Tard le soir
ou tôt le matin, ou je ne sais pas. Donc, ça va être difficile. Maintenant, il y a eu une grosse levée de bouclier, par exemple, sur les télévisions pour bébés. Les mouvements d'éducation populaire, on se sont dit non, c'est pas possible. On peut pas demander à des, enfin coller des, la télévision ne peut pas être un moyen d'éducation. L'éducation, c'est avant tout un dispositif de relations humaines, et ça ne peut pas être un dispositif d'une personne en cours de croissance, comme un enfant ou un bébé, et un écran. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas investir une émission télé où des personnes gobraient, etc. S'il n'y a pas d'interactivité, on n'est pas dans le domaine de l'éducation. On est dans le domaine du loisir, on est dans le domaine de la détente, on est dans le domaine de ce que vous voulez, mais on n'est pas dans le domaine de l'éducation. Même une émission éducative telle qu'elle soit, si elle n'est pas regardée en groupe, rediscutée, aidée par un éducateur dans le décryptage, ne peut pas être une émission éducative. Ce n'est pas possible.
Et est-ce que finalement, au début, par exemple, on parlait de Freinet tout à l'heure, le fait de s'approprier un média, mais des médias peut-être plus simples que la télévision, qui sont peut-être la radio, ou peut-être le journal, ou même Internet, peut avoir un rôle d'éducation populaire peut-être plus efficace ou...
Oui, si on a appris à pouvoir le critiquer, si on est en interaction avec les personnes qui ont fait l'émission, si on est en interaction avec d'autres personnes qui la regardent ou l'écoutent, de manière à pouvoir dire, de pouvoir se forger son propre opinion et sa propre critique et de ne pas avoir uniquement l'apport de ce que la personne qui a conçu l'émission peut le faire.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que, juste une dernière question pour conclure, à ton avis, quel est aujourd'hui le plus grand défi de l'éducation populaire ? Très rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Et sinon, Jean-Jacques, il ne va pas être content.
Et puis que c'est une question simple, je veux dire.
Et puis c'est une question simple,
de toute façon, t'as répondu. Hein. Voilà. Enfin, si t'es fort.
Je ne sais pas, peut-être que c'est un mouvement de mode actuellement qui me fait répondre ça, mais je crois que le plus grand défi, c'est de pouvoir comprendre où on vit et dans quel environnement on vit. Tout ce qui est autour de sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de transmettre son héritage, je parle de son héritage culturel, mais aussi de notre façon de vivre, il y a un grand défi d'éducation populaire. Et là, je parle d'écologie, je parle de développement durable, je parle de choses comme ça. Ça, c'est un grand défi. Et puis le gros défi reste toujours le même, qui est le défi de la démocratie. Il est... absolument indispensable que l'ensemble des citoyens puissent se dire voilà, il faut continuer à se battre de manière à ce que chacun puisse penser par lui-même et pouvoir choisir sa société dans laquelle il a envie de vivre.
Eh bien, on te remercie Jean-Claude, on te remercie surtout pour cette émission. Il aurait, comme d'habitude, elle aurait mérité de durer plus longtemps. Là, vous allez entendre le générique de fin. Enfin, si Jean-Jacques arrive à le passer. Oui, il le passe, c'est magnifique. C'est vraiment, cette émission est parfaite. On n'a jamais de problème technique. Donc, on se quitte. Au revoir, Boris.
Au revoir.
Au revoir, Jean-Claude. Au revoir, Jean-Jacques.
Au revoir. À très
Et
bientôt.
Puis, vous nous retrouvez. Ah oui, non, j'avais oublié. Ah oui, j'ai pas l'habitude. C'est Guillaume qui le fait d'habitude. Alors, on a une tradition dans cette émission, en tout cas, une tradition orale. C'est qu'on quitte le plateau en mettant des chapeaux et en dansant. Donc on est désolé Jean-Claude, ça va faire un peu long jusqu'à Perpignan, mais je suis sûre que tu vas t'en sortir comme un chef. Donc voilà, on y va, on se quitte et vous nous retrouvez sur Clapas.
Boris, le chapeau sur la tête, s'il te
plaît. Ouais, je l'ai sur la tête là.
En même temps, s'il pouvait enfin le mettre, vu qu'il n'a pas de pantalon, ça serait quand même agréable. Ça fait toute l'émission que ça aurait été important.
C'est vrai que c'était un peu gênant. Ouais. Bon, c'est le pendule de Foucault.
Comme disait Ramon, c'est aussi une tradition, on finit toujours en disant, comme disait Ramon, soyons vigilants.
Thank you.